Chapitre 18, un nouvel article signé XXX. Monsieur, dit Catherine en pénétrant le lendemain matin dans la chambre de Jacques, monsieur, voici quelque chose pour vous. Et elle lui remit un gros pli dans lequel il trouva une lettre de Christine et quelques extraits de journaux de la province et de la capitale. La lettre disait « Mon cher Jacques, tout s'est passé hier bien mieux que je l'aurais osé l'espérer. Jaloux de toi comme il a le droit de l'être, car il sait que nous sommes fiancés, Gabriel s'est conduit avec une noblesse et une grandeur digne de son essence divine. Tu peux être fier de ton enfant. Sa pensée est débarrassée grâce à toi de tout ce qui fait le malheur et la bassesse de la commune engeance, déliée de la captivité des sens, s'est concentrée dans toute sa gloire, c'est-à-dire dans toute sa générosité. Il aurait pu m'accabler de reproches, me blâmer de mon manque de confiance, m'accuser même de mensonges. Que n'ai-je fait pour toi? Il n'a même plus été question de toi. J'avais emporté les journaux où la terrible aventure de Bénédicte Masson semblait si bien se présenter sous une face nouvelle et donnant toute espérance. Il les a parcourus d'un œil calme et satisfait. J'augurais de l'événement le meilleur avenir. Il n'y avait plus qu'à laisser faire aux dieux, qui sont dans la circonstance, messieurs les inspecteurs de la Sûreté Générale, et bientôt, la vérité allait triompher. J'entrevoyais déjà le moment où nous n'aurions plus à cacher le miracle et où tu allais enfin recueillir le laurier qui t'est dû, quand ce matin, la route ayant été débloquée par l'ardent travail de nos admirables petits chasseurs alpins, une auto venant de Nice s'est arrêtée devant la porte du bureau de tabac. Nous passions justement par là en nous rendant à la chapelle. Gabriel devient très pieux. Le chauffeur lisait à haute voix un journal de la veille au père Tiphaine, le fabricant de luges, et à Baptista, le garçon de l'hôtel qui sortait du débit. Il était question de la poupée sanglante. Nous écoutâmes et puis nous lûmes à notre tour. Je regardais Gabriel. Ah, je ne sais point comment l'éclair de ses yeux ne brûlait pas ces feuilles infâmes. À la hauteur où tu as placé notre Gabriel, il n'y a plus décidément que la vérité qui l'émeut, la vérité et la justice. Une sainte colère faisait frémir tous les ressorts de la cage où tu as tenté d'enfermer cette âme surhumaine. Il s'est tourné vers moi. Son geste commandait « Partons !» Comme je le comprenais, partons, cette fois non pour fuir, mais pour combattre. Il n'a plus affaire à des ombres. Il connaît maintenant ses ennemis. Le nouvel article signé XXX, avec ce que je lui ai raconté du trocard, éclaire d'une lueur fulgurante tout le crime. Le marquis et sa Dourga, car ce ne peut être que d'elle qu'il s'agit, et leurs amis, voilà le bataillon de maudits qu'il faut anéantir. Et oser accuser notre Gabriel de complicité dans cette horreur. Oser traiter Bénédicte Masson de pourvoyeur de cette bande infâme. Ah, nous succomberons ou nous vaincrons. Oh, comme il est beau notre Gabriel dans cette minute tragique où il défie le monde. Je cherche dans sa main l'épée flamboyante, je la vois. Prie pour nous, mon bon Jacques, et soigne-toi bien, ta Christine. Postscriptum. Je lui ai demandé la permission de t'écrire ce mot. Il y a immédiatement consenti. Je suis entré dans le bureau de tabac. Tu excuseras mon pauvre papier. Je lui ai demandé aussi s'il n'était point préférable de t'emmener avec nous. Mais il t'a vu hier dans un tel état qu'il m'a fait comprendre qu'il ne serait peut-être point charitable de troubler ton repos. Je n'ai pas insisté, connaissant ton cœur et sachant que tu n'eusses pas hésité à sacrifier ta santé pour venir partager nos dangers. À bientôt, mon bon Jacques. Tu entendras parler de nous. L'effet produit par cette lettre sur l'esprit déjà un peu endolori de Jacques Cotentin fut plutôt funeste. Il y a des moments où l'être, jusqu'alors le mieux équilibré, ne se sent plus d'aplomb dans la vie. Ce balancier invisible qu'est la juste appréciation des événements, des gens et des choses, au milieu desquels il se meut, lui faisant tout à coup défaut, il chancelle, étant ses bras vides, ne trouve point où se rattraper, et voilà un homme par terre. Cette lettre donna à Jacques le vertige. Il y vit une atroce ironie là où Christine ne s'était exprimée qu'avec une cruelle mais inconsciente candeur. Si Jacques avait conservé cette belle lucidité scientifique que ses maîtres et ses élèves admiraient naguère, il eût été moins étonné de ce qui lui arrivait, et surtout de ce qui arrivait à Christine. Elle vivait dans le rayonnement d'un dieu, loin des contingences. Elle aussi devenait pur esprit. Tant pis pour Jacques, qui, après avoir mis au monde ce phénomène de lumière, restait stupéfait dans son limon, regrettant l'œuvre sublime, ramenant tout à son malheur, c'est-à-dire aux petits sentiments ordinaires humains, entre deux quintes, en faisant avec son nez et sa bouche un bruit ridicule au fond du mouchoir à carreaux de Catherine. Christine ne faisait que le plaindre, mais ne s'en moquait pas. C'est en toute sincérité qu'elle lui écrivait « Soigne-toi bien ». Et c'est justement ce « Soigne-toi bien » qui parut monstrueux à Jacques Cotentin. « Soigne-toi bien » s'écriait-il. « Tu vas voir comme je vais me soigner. » Là-dessus, il se dressa, étendit les bras, et comme nous l'avons fait prévoir, retomba épuisé, incapable d'un mouvement. Heureusement, Catherine entra. « Enfin, voilà monsieur tranquille !» prononça-t-elle devant cet anéantissement. « Je vais pouvoir soigner monsieur à ma manière. Je vois ce que c'est. Monsieur a besoin d'être purgé. Je vais lui préparer une bonne tasse de café, mais avec de l'huile de ricin. » Et maintenant, nous allons citer les principaux passages de l'article signé XXX qui donnait à l'affaire de la poupée sanglante, ainsi que l'avait annoncé l'époque, un renouveau d'épouvante. L'émotion, l'inquiétude soulevée dans le monde entier par la résurrection, c'est le cas ou jamais de se servir de ce terme, du procès de Corbière, disait l'écrivain masqué de l'époque, ont eu leurs origines autant dans le miracle scientifique qui faisait sortir un condamné à mort du tombeau, que dans les événements subséquents qui perpétuaient le crime de Bénédicte Masson, si bien que ceux-mêmes qui, malgré tant de témoignages, ne croyaient pas à la poupée, ne cachaient pas leur angoisse devant le problème qui s'imposait à tous d'une innocence possible. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer tout le monde. Bénédicte Masson était bien coupable, mais... Et c'est là l'événement nouveau, formidable, que nous avons annoncé, et sans lequel le crime, c'est-à-dire tous les forfaits imputés au sauvage de Corbière, restaient inconcevables dans sa liaison et dans ses proportions, mais affirmons-nous, Bénédicte Masson n'était point le seul coupable. Ce monstre n'était peut-être après tout que l'instrument d'une bande, écrivons plutôt d'une secte, qui a fait de l'assassinat une sorte de religion. L'enquête personnelle à laquelle nous sommes livrés, malgré des difficultés et des dangers sans nombre, est maintenant assez avancée pour que nous puissions prendre sur nous de déclarer que, dans les environs même de Corbières, non loin de la petite maison du sinistre Robinson, qui avait été sans doute posté là en sentinelle avancée, une société parmi les membres de laquelle nous pourrions relever des noms célèbres dans toute l'Europe et hors de l'Europe, avait installé ses sanglantes pénates. Que de telles choses soient possibles à notre époque, il faut, pour le comprendre, remonter le cours des âges et diriger nos yeux vers l'Orient, d'où ces chevaliers du crime nous sont venus, montés sur leurs nefs hideuses dont les voiles rouges se gonflaient au souffle du Bacchus indien. Déjà, la vieille Europe, effrayée, avait entendu parler de cette association d'assassins, fraternité immense répandue sur tous les points de l'Hindoustan. Redoutée des autorités, conforme aux coutumes, consacrée par la religion et fondée sur des principes philosophiques. Longtemps, on n'eut sur elle que des renseignements incomplets et partiels. L'organisation de cette société, vouée à la destruction de l'humanité, a été enfin divulguée vers le milieu du siècle dernier par Sir William Bentinck, gouverneur des possessions anglaises dans l'Inde. Et l'on n'a plus aucun doute sur son existence, sur ses ramifications, sur les profondes racines qu'elle a jetées dans les mœurs du pays. Les preuves sont abondantes, les mobiles qui la dirigent sont connus. Depuis le Cap Comorin jusqu'aux monts Himalaya, une vaste association couvrant le sol, répandue dans les forêts, habitant les villages, mêlée aux citoyens les plus respectables, soumise à un code de moralité d'ailleurs sévère, parcourant tout le territoire, n'a d'autre moyen d'existence, d'autre gloire, d'autre but à avouer, d'autre religion que de tuer. Les philosophes occidentaux sont restés bouche béante et les yeux fixés sur ce phénomène. Lorsque des faits avérés sont venus l'attester, ils n'ont pu ni le réfuter ni le comprendre. Quelle explication rationnelle donner d'une telle anomalie ? La société repose sur le besoin de la conservation, et voici des milliers d'hommes associés pour la destruction. Ils tuent sans scrupule, sans remords, d'après un système mieux lié, plus logique, plus complet que nos systèmes métaphysiques. Assurément, ceci est un prodige. Les assassins ou thugs, mot qui signifiait séducteur, sont non seulement moralistes, mais prêtres, mais artistes. Leurs formules pour étrangler le voyageur sont savantes. Leur recherche d'élégance et de grâce dans le procédé même de l'assassinat ferait honneur à l'invention d'un poète. Nul d'entre eux n'oserait employer un nœud coulant grossièrement fabriqué ou contraire à l'élégance des formes consacrées par la tradition. Il y a solennité, poésie, grâce, estime de soi-même, conscience du devoir dans cette secte infernale qui a fleuri paisiblement sous les hindous, sous les mahométans et sous les anglais. Ces démons se croient des anges. Ils meurent tranquilles et fiers. Ils dorment en paix. La justice britannique met-elle la main sur eux ? Ils se présentent sans crainte et meurent sans honte. Ils développent ingénument les principes de leur caste, en soutiennent l'excellence et en rapportent les actes les plus horribles à une nécessité supérieure, divine, dont ils ne sont que les instruments. Ils sont les diacres de l'effroyable déesse Devi, la maîtresse de la mort, qui se nomme encore Kali ou Durga. Tous les meurtriers la regardent comme leur protectrice. Les sacrifices humains lui plaisent seuls. Ils ont commencé par verser le sang devant sa statue, maintenant ils le boivent. Autrefois, ils se divisaient en Thugs du Nord et en Thugs du Midi, avec leurs rites spéciaux. Depuis la fin du dernier siècle, Une nouvelle secte n'a fait que grandir en puissance et tend de plus en plus à fondre en elle tous les éléments du tugisme. C'est celle des Tugsasuras qui ont compliqué leur rite criminel de toutes les pratiques du vampirisme. Les Asuras, pour se conformer aux anciennes coutumes, étranglent encore leurs victimes, mais après avoir vidé leurs veines et s'être repus de tout leur sang. Il leur arrive de prolonger le supplice pendant des semaines, des mois, même des années. Ils s'attaquent presque exclusivement aux femmes. Quand leur victime est belle et douée d'une santé robuste, ils ont garde d'en finir avec elle dès la première séance. Certains se mettent à l'aimer, à la chérir, et d'autant plus que beaucoup d'entre eux retrouvent en elle la vie qui les fuit. Ainsi, cite-t-on, quelques-unes de ces malheureuses qui, jusqu'à leur dernier souffle, ont été entourées entre chaque libation des soins les plus tendres. Et maintenant, nous devons terminer ce premier article par une déclaration qui nous est les plus pénibles. Mais il y a des scandales que l'on ne saurait étouffer sans danger pour la morale publique, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de faits aussi monstrueux que ce qu'il est de notre devoir de dénoncer. Les Asuras ne sont pas tous d'origine indienne. Des Européens établis depuis longtemps en Hindoustan, attirés par le mystère et, disons le mot, par le diabolisme de ces cérémonies farouches, ont pu pénétrer dans le temple et sont devenus à leur tour les adorateurs de la prêtresse Kali, appelée également Durga. Eux aussi, ils ont bu le sang sacré. Et quand ils sont revenus en Europe, ils apportaient avec eux des mœurs de vampires, une soif criminelle à laquelle il ne leur était plus possible de ne pas satisfaire. Il y a quelques années, ils avaient formé à Londres une association qui a été subitement dissoute à la suite d'une indiscrétion redoutable. Eh bien, cette association a été reconstituée en France. Elle y a transféré ses cérémonies, son rituel atroce et aussi ses procédés modernes, dont le trocard qui frappe les victimes à distance n'est pas le seul échantillon. Des noms? Oh, le jour est proche où il faudra bien les écrire. Nous espérons que nous n'aurons point à nous faire les instruments de la vindicte publique. Nous laissons ce geste à ceux à qui il appartient de droit. Mais vous pouvez chercher déjà. Ces noms n'ont point toute une connaissance étrangère. Ils sont inscrits et non pour notre gloire en marge de l'histoire de France. Bénédicte Masson le connaissait bien, ce nom-là. Cherchez autour de Bénédicte Masson. Autour de Corbières. Ce marécage n'est pas seulement le refuge des canards sauvages. Il y a d'autres oiseaux dans les environs. Cherchez autour de la déesse Durga. Chapitre 19. Dernier festin, dernier soupir. Dernier festin, dernier soupir, râle subtil, mort épousée aux lampes vertes des tombeaux. Christine se réveilla encore dans cette petite chambre de Corbillière où elle avait vécu des heures si tragiques. Mais maintenant qu'elle s'était placée à la hauteur de son destin, elle acceptait les événements avec le front serein de la fatalité. Elle se faisait aussi belle et aussi impassible que son merveilleux compagnon. Une même force auguste les poussait tous les deux. Ils étaient la justice en marche. Les méchants pouvaient trembler, l'heure de châtiment était proche. Les dangers qu'il leur restait à courir et dont ils n'avaient du reste qu'un faible soupçon n'était propre qu'à leur glorifier l'âme. Il y avait quelques heures qu'ils étaient arrivés à Corbillière. Où Gabriel aurait-il trouvé un meilleur refuge que dans sa petite maudite maison abandonnée après la seconde enquête comme elle l'avait été après la première? Nous avons vu que ce n'était point les scellés qui le gênaient. Du reste, il était décidé à faire vite et, au fond, s'il n'était pas allé directement aux deux colombes, suffisamment désigné dans l'article XXX, c'est qu'il hésitait à traîner avec lui dans cette expédition une jeune femme qui avait failli déjà être la victime de Georges-Marie Vincent et de ses acolytes et qui se trouvait particulièrement visée par l'horrible association. Quand il crut que la jeune fille reposait, accablée par les fatigues d'un voyage terriblement précipité, il sortit du pavillon en évitant de faire le moindre bruit. Malheureusement averti par le secret instinct qui la liait à Gabriel, Christine ouvrit les yeux et ne se rendormit pas. Elle se leva, poussa la porte qui la séparait de la poupée, désireuse de la contempler une fois de plus dans son repos, comme il lui arrivait souvent alors qu'elle guettait son réveil et le premier sourire de ses yeux. Gabriel n'était plus là. Elle le chercha dans toute la maison. Mais où donc était-il le temps où, dans cette maison même, elle ne pouvait le voir sans effroi? Maintenant, elle avait peur qu'il n'était point là. Et non point pour elle, mais pour lui. Depuis son premier geste, il n'avait pas fait jamais un pas sans elle. Jamais encore, quel que fût le drame, quel que fût l'idylle, il ne s'était séparé. Et pour qu'il l'eût abandonnée ainsi, quel était son dessein? Elle devina sa générosité et en gémit. Elle ouvrit la porte du rez-de-chaussée et lança un appel sourd dans la nuit blanche. « Gabriel! Gabriel !» Et soudain, elle aperçut son ombre qui disparaissait au tournant du sentier, conduisant à travers le bois aux deux colombes. Alors elle s'élança. Elle atteignit ce bois dont les troncs noirs, dénudés, semblaient avoir été dressés là comme des sentinelles pour l'empêcher de passer. « Gabriel !» appela-t-elle une seconde fois. Un sifflement singulier lui répondit. Elle se sentit presque aussitôt touchée au cou. Une piqûre douloureuse l'arrêta net dans son essor. Et tout de suite, elle fut comme étourdie par la pensée fatale qu'elle aussi pouvait être victime du jeu terrible dont Paris frissonnait encore. Éperdue, elle appela encore « Gabriel ! Gabriel !» Sentant déjà l'alourdissement de son sang dans ses veines, elle fit un effort surhumain pour continuer sa course. Ainsi, elle franchit quelques centaines de mètres et suivit le bois n'ayant pas aperçu Gabriel. Alors elle tomba sur les genoux. À ses côtés, une grande ombre d'ébène se dressa. Elle reconnut Sangor qui jetait sur elle son manteau, l'en enveloppait les pieds à la tête et l'emportait dans ses bras comme une enfant. Toute résistance lui était devenue impossible, elle ne pouvait même plus crier. Une langueur souveraine et quelque peu enivrante la conduisit aux portes du sommeil. Quand elle souleva à nouveau ses paupières, une étrange vision faisait mouvoir devant elle des formes tellement précises dans des mouvements si logiques et si réguliers qu'il était impossible de s'arrêter à l'idée d'un songe. D'abord, tous les sens étaient frappés à la fois par le rythme des danses, la richesse et la singularité des costumes, l'odeur enivrante que répandaient les nuées légères montées des brûles parfums, par le son bizarre, lointain et lancinant d'une musique aux phrases courtes qui finissait par s'imposer à tous les mouvements du corps comme une servitude. La pièce, grande comme une salle de temple, n'avait d'autre richesse que ses tapis, sur les dalles et sur les murs, mais ils étaient d'une incomparable beauté. D'où venaient-ils, de Perse, de Chine, où avaient-ils traversé les siècles pour attester l'œuvre antique de l'Inde au temps de sa plus haute civilisation? C'étaient des tissus de soie à gros grains serrés, où les tons fauves du fond prenaient l'aspect de l'or. Les rouges avaient encore une intensité éblouissante et chaude, comme le sang le plus pur jailli de la veine vermeille. Les riches ornementations de fleurs arabesques, palmes, rosaces, acquéraient une valeur rivale des plus beaux veloutés de laine. D'autres offraient des images symétriques et des ornements comme les Chinois en employaient dans leurs compositions symboliques pour les tapis à prière. Des lits bas, sortes de cubiculis, où s'entassaient des peaux de bêtes sauvages dépouillées de la jungle, faisaient le tour de la salle, occupées par les formes allongées et immobiles des invités de cette fête renouvelée des mystères orientaux. Des torchères éclairaient le spectacle de leurs flammes pâles aux couleurs d'argent. Les invités et Christine elle-même, étendues comme les autres sur les toisons fauves, étaient vêtues d'une robe de soie noire aux arabesques d'or, mais ses chevilles et ses bras nus étaient chargés d'anneaux au travail précieux qui lui semblaient si lourds qu'elle n'aurait jamais la force de les soulever. Soudain, sur un signal frappé sur le gong, les danses cessèrent, et les éphèbes de bronze, peu vêtus à la vérité, qui entremêlaient leurs pas nus selon les rythmes millénaires, s'avancèrent en groupes ordonnés vers le fond de la salle, s'allongèrent sur les tapis, puis se dressèrent à nouveau et se retirèrent en silence. Un silence, un grand silence. Le regard de Christine était allé vers le fond de la salle où s'était prosternée l'adoration des éphèbes. Des marches s'élevaient là, hautes et presque droites, comme les degrés de l'échelle de Jacob qui s'appuyait au ciel. Soudain, les torchères ne répandirent plus qu'une sinistre lueur verdâtre, et toutes les figures allongées sur les lits, figures qui jusqu'alors étaient restées immobiles, se dressèrent comme autant de cadavres surgissant du tombeau. Tous les yeux gouffrés d'ombre étaient tournés vers le même sommet, dans l'attente de quelque chose qui, d'avance, faisait frémir d'horreur la chair impuissante de Christine. Et tout là-haut, la tapisserie où aboutissaient ses marches s'entr'ouvrit, et l'on vit sur le trône d'or et de nuit la déesse de la mort. Et Christine reconnut Dorga. Elle était belle et prodigieusement funeste, lointaine et redoutable comme Proserpine aux enfers. Tous les mythes se rejoignirent à l'ordre aurore du monde. Les mystères d'Éleusis, de Delphes, de Thèbes, de Babylone et de l'Inde la plus antique se rencontrent dans la même idée de la vie qui sort de la mort comme le grain de blé germe au sein de la terre glacée dont il jaillira un jour de joie. Cycle sacré dont il nous faut saisir tous les termes pour comprendre comment les religions, dans leur manifestation première, ont pu, au fond des sanctuaires, offrir aux initiés les spectacles les plus atroces et les plus voluptueux. On glorifie la vie en sacrifiant à la mort. Et voici les supplices. Et la mort, reconnaissante, donne la joie et l'amour. Ainsi les plus basses passions se partent-elles de poésie et appellent-elles à leur secours les dieux et les déesses propices. Ainsi, Sahib Khan, le fameux médecin indien de l'avenue d'Iéna, le thaumaturge à la morde. Saïb Khan, que Christine reconnut à ses yeux de houri et à sa bouche fleur sanglante entr'ouverte dans sa barbe de jais, Saïb Khan s'avança vers Dorga et prononça les premiers vers de l'hymne célèbre qui est chanté dans tous les ans dans le temple, devant les autorités anglaises lors des solennités du Durga Purana. Ô déesse noire, grande divinité de Calcutta, tes promesses ne sont jamais vaines. Toi, dont le nom favori est Kunkali, la mangeuse d'hommes, toi qui bois sans cesse le sang des démons et des mortels, toi qui habites sous terre et qui ensuite reparais à la lumière, vierge auguste qui nourrit les générations, ô mort, mère féconde qui te nourrit de la cendre des univers, nous te supplions de descendre parmi nous et de nous donner la vie qui éloignera de nous la vieillesse. Viens, Durga, viens, nous t'attendons. Dorga Durga se leva et descendit au milieu des flammes vertes, déesse noire aux ongles d'or. Son beau corps, que ne voilait qu'un pagne de perles, se détendit avec une langueur harmonieuse, comme si vraiment elle sortait d'un long sommeil au fond des enfers et qu'elle fût heureuse de retrouver le mouvement que lui avait ravi le fatal repos. Elle dansa. Une lueur d'aurore sembla naître sous ses pas. Et ce n'était plus la déesse de la mort, ce n'était plus Durga, c'était Vénus, la Vénus ardente au sein cruel, née des flots limoneux du Gange. Elle apportait avec elle une lumière de sang qui fit reculer la flamme verte des torchères, comme aux rives du fleuve sacré s'éteignent devant le jour naissant les lueurs funèbres du bûcher. Et autour d'elle, les cadavres des initiés reprenaient couleur de vie. Les yeux de Saïb Khan s'attendrissaient de volupté. « Il a l'air d'un marchand de nougat », pensait Christine au fond de son demi-coma. Mais le moment était proche où elle ne garderait plus assez de lucidité pour amuser sa trop certaine angoisse avec de telles comparaisons. La danse de Dorga, qui avait commencé par être lascive, devint bientôt frénétique. Un rythme musical cruellement précipité qui ne laissait plus voir distinctement que la ligne brûlante de son regard hiératisé et le double cercle de ses ongles d'or. Autour d'elle, toutes les poitrines haletaient, et il y eut un lugubre gémissement quand elle s'écroula sur le tapis, les bras en croix, la bouche entr'ouverte comme si elle venait d'expirer son dernier souffle. Dorga est morte. Elle est retournée aux enfers, la déesse noire aux ongles d'or. Nous n'avons pas su la retenir parmi nous, prononça comme on chante une litanie, la voix traînante et grave de Saïd Khan. Les gémissements reprirent de plus belle. « Que faut-il faire pour la faire renaître ?» demanda encore Saïb Khan. Et tous répondirent « Du sang !» Saïb Khan leva les mains et, se tournant encore vers les initiés, il prononça les paroles sacramentelles en dialecte ramazi, qui est l'antique langue des Tugs, et que nous pouvons traduire ainsi, que les Boras, ce Tug, se séparent des Bitous, voyageurs, ce qui signifiait, si quelqu'un n'est point des nôtres ou ne partage pas notre avis, qu'il s'en aille. Mais personne ne bougea. Alors Saïb Khan dit, que l'on apporte la coupe et le couteau. Et Sangor apporta la coupe et le couteau. La coupe était en or et supportait le couteau qui était aigu comme une lancette, mais dont le manche lourd était surchargé de pierreries. Où est le sang? Demanda Sahib Khan. Le voici, répondit une voix qui ne s'était pas encore faite entendre, mais qui fit se retourner brusquement, malgré sa faiblesse et son étourdissement, Christine au comble de l'épouvante. Elle avait reconnu la voix du marquis de Coulteret. C'était bien lui, c'était bien Georges-Marie Vincent. Depuis le commencement de la cérémonie, il était là, allongé à son côté, derrière elle, attendant le moment de prononcer la parole fatale qui allait faire de Christine sa nouvelle victime et sa nouvelle épouse. « Je donne à Durga, dit-il, le sang de ma nouvelle épouse. » Et tous lui répondirent « Imene, Imene !» Et Sahib Khan s'approcha avec Sangor, qui portait la coupe et le couteau. Christine fit entendre un rauque sanglot, tendit tout son être dans un désir éperdu de fuir le supplice qui se préparait. Mais Georges-Marie Vincent la renversa sur son bras et ne put offrir aucune résistance au sacrificateur qui lui incisait la gorge. Le sang coula dans la coupe, et peu à peu Christine, avec ses forces et sa vie, sentit que s'en allait toute son horreur. Elle n'avait même plus la force de l'épouvante. Elle n'eut point celle du dégoût. Elle regarda dans un doux anéantissement cette coupe pleine de son sang que Sahib Khan portait aux lèvres de Durga, laquelle ouvrit les yeux et lui sourit de sa bouche affreusement écarlate en prononçant des paroles que Christine ne pouvait comprendre. Elle vit tous les autres initiés boire tour à tour à la même coupe. Elle assista, hébétée et lointaine, oh combien lointaine, à la cérémonie de Durga ressuscitée et dansant, sans s'épuiser cette fois, la danse de la vie et de l'amour, en ne la quittant pas des yeux. Enfin, Durga remonta, toujours dansant comme transporté dans un vol de victoire, jusqu'à son trône noir et or, où elle s'assit dans une immobilité subitement retrouvée de déesse. Elle allait disparaître comme elle était apparue, quand Sahib Khan fit un geste. Les musiques cessèrent, et dans l'air lourd de parfum et de sang, ces paroles montèrent. Durga, tu n'es point seulement la déesse de la vie et de la mort, tu es encore la grande distributrice. Ta main droite est pleine de bienfaits, ta gauche pleine de châtiments. Voilà pourquoi il est juste que l'on t'offre le sang vierge et qu'on te sacrifie l'impie. Sache que c'est la dernière fois que nous t'appelons ici. Nous ignorons encore où les Asuras donneront leur prochain festin. C'est la folie indiscrète du plus humble de nos serviteurs qui nous chasse de ce temple et commande notre exode. L'ingénuité stupide et les jeux dangereux d'un pauvre petit animal ont répandu l'émoi dans la cité et soulever contre tes serviteurs l'indignation des ignorants. Ce petit animal, nous te l'offrons, que la fumée de son sang te soit agréable. Nous implorons ton pardon. » Là-dessus, on vit apparaître à nouveau le géant Sangor, qui retenait par la tignasse le nain Sing Sing, lequel poussait des cris de Ouistiti. Tsing Tsing ne cria pas longtemps. Au-dessus d'une bassine d'or, Sangor le souleva toujours par les cheveux. Tsing Tsing gigotait de la façon la plus comique, mais personne ne riait. Sahib Khan prononça encore la phrase sacramentelle Le gage est-il bon? Et tous répondirent, comme il convient à un tugue qui donne le signal de l'exécution, « Bojlaké, pas venez, livrez le gage du fils de ma sœur. » Parole bien honorable pour un Sing-Sing. Aussitôt, Sangor poignarda Sing-Sing en moins de temps qu'il faut pour l'écrire, ce qui était de toute nécessité pour prévenir toute résurrection, du moment qu'on ne pouvait lui faire l'honneur de lui couper la tête, réservée aux vampires nobles. Pendant cette fin de cérémonie atroce, le marquis, bon enfant, avait conseillé à Christine de ne point regarder, mais elle préféra voir la mort de Sing Sing plutôt que d'assister au spectacle de cette face qui se penchait sur sa blessure à peine refermée, comme elle l'avait vu se pencher un jour sur le pauvre corps épuisé de Bessie et lui donner le baiser qui tue. N'aurait-elle point mieux fait cependant de fermer les yeux? Mais elle n'avait plus la force de fermer les yeux. Quand on est aux portes de la mort, ne faut-il pas le secours des vivants pour vous clore les paupières? C'est une aide que lui eût refusée le marquis, qui puisait une joie surhumaine dans ce regard d'agonisante, tandis qu'il lui murmurait « Comme je t'aime, Christine, comme je t'ai toujours aimée !» Chapitre 20. Une séance mémorable à l'Institut. Le dernier article signé XXX, en élargissant le scandale jusqu'aux limites du possible et même de l'impossible, pour certains esprits, avec la poupée sanglante, avait déterminé dans la capitale un mouvement dans lequel se trouvaient entraînés tous les rouages de l'État. Ce n'était pas seulement avec l'émotion de la rue qu'il fallait compter, mais avec celle de tous les grands corps constitués, pour parler le langage solennel un peu désuet, mais si évocateur quelquefois de la haute administration. Le ministère de l'Intérieur, présidence du Conseil, reprochait avec une acrimonie menaçante à la direction de la Sûreté Générale des indiscrétions de presse qui entretenaient une fièvre malsaine dans les réunions publiques, dans les syndicats et même dans les associations les plus fermées à la politique, car l'affaire de la poupée sanglante était devenue, ni plus ni moins, une affaire politique avec laquelle on essayait de berner les foules et sous laquelle se cachait peut-être un effroyable déni de justice. Au sein des familles, jusqu'alors les plus unies et les plus paisibles, et les milieux élevés, on se jetait à la tête à propos de tout et de rien cette phénoménale poupée, on se traitait couramment d'imbécile. Enfin, parmi ceux qui admettaient son existence, les uns étaient pour son innocence, les autres pour sa culpabilité, ou tout au moins pour sa complicité. Voici pour l'intérieur. Pour l'extérieur, c'est bien autre chose. Le ministre des Affaires étrangères qualifiait brutalement, lui, ses indiscrétions de criminelles. Le dernier article de l'époque pouvait nous mener loin avec son évocation des mœurs de l'Inde, sans compter qu'on y trouvait suffisamment de précision pour mettre en émoi toute la haute aristocratie anglaise qui n'admettait jamais que même dans le cas où l'un ou plusieurs de ses membres fussent coupables, ce qui restait à démontrer, la réputation du parti conservateur s'en trouva compromise. Se mettre à dos le parti conservateur, en deçà et au-delà de la Manche, dans un moment où l'on avait besoin de la bonne volonté de tous pour résoudre certains problèmes internationaux d'où dépendait l'équilibre de l'Europe, c'était insensé. Cela méritait le cabanon ou le poteau, ou tout au moins la destitution. Un bon entendeur, salut, monsieur Bessières. Si l'on n'était pas content à la place Beauvau ni au Quai d'Orsay, que dirions-nous de ce qui se passait place Vendôme, au ministère de la Justice et boulevard du Palais? Il y avait beau temps que l'ex-substitut du procureur de la République, devenu avocat général à la Cour de Paris, M. Gassier, avait rejeté toute l'affaire de la poupée sur M. Bessières. On ne le lui envoyait pas dire à celui-là. Tant pis pour le chef de la Sûreté Générale, qui avait été assez mal avisé pour ordonner une enquête sérieuse, dans toutes les formes, sur un événement aussi invraisemblable. M. Gassier ne niait pas lui avoir envoyé la vieille ville, mais il avait expédié cet innocent marguillier dans la mesure où l'on se débarrasse d'un fou. Et M. Bessières l'avait pris au sérieux. Et il avait pris également au sérieux Mademoiselle Maresca et M. Birouste. Le revirement de M. Gassier s'était fait dans des conditions qu'il n'est peut-être pas inutile de préciser, car elles nous font voir, sous un aspect nouveau et tout de même bien inquiétant, la question judiciaire posée par l'aventure de la poupée. Certains journaux ayant déclaré que l'on serait dans la nécessité de juger à nouveau Bénédicte Masson, suivant une procédure qui n'avait été bien certainement prévue par aucune loi ni par aucune jurisprudence, la Gazette judiciaire s'éleva aussitôt avec violence contre une pareille prétention. D'abord, pour la révision du procès, il eut fallu un fait nouveau, et la sévère Gazette déclarait ne pas l'avoir trouvé dans la nouvelle enquête. À quoi les adversaires de la Gazette répondaient « Mais que vous faut-il donc comme fait nouveau? Que peut-il y avoir de plus nouveau dans un procès qu'un innocent condamné à mort et exécuté et revenant plaider son affaire lui-même devant la cour ?»« Mais s'il est coupable, serait criée l'impétueuse Gazette, que peut-il y avoir en effet de plus nouveau que ce guillotiné se représentant devant les magistrats qui se voient dans la même nécessité de le faire guillotiner à nouveau? Eh bien, cela, mes chers confrères, c'est trop nouveau. » C'était en effet tellement nouveau que ceux qui croyaient à la poupée comme Gassier reculèrent épouvantés. Qu'un événement pareil se produisit, il y aurait une telle révolution dans les mœurs judiciaires que la société en tremblerait sur sa base. D'abord, c'était la peine de mort devenue impossible, puisqu'inopérante, comme on dit au palais, et le triomphe assuré des partisans de sa suppression, sans compter la joie insupportable de messieurs les assassins. Conclusion, ou la poupée existait ou elle n'existait pas. Si elle n'existait pas, il ne fallait pas l'inventer. Réfléchis bien à ceci, ô Jacques Cotentin. Et si elle existait, eh bien, il fallait la supprimer, l'anéantir sans autre forme de procès. Vous m'avez compris? Ceux qui n'ont pas compris cela ne seront jamais les hommes d'État. Je vous le dis entre les deux yeux, monsieur Bessières. Extrait d'un bref dialogue entre M. le directeur de la Sûreté Générale et le chef de cabinet particulier du ministre. Sur quoi M. Bessières, mélancolique, rentrait chez lui en se disant « Avant de la supprimer, il faudrait l'arrêter. Mais dans le cas où je l'arrêterais, je ne la supprimerai pas. Ils m'ont tellement causé d'ennui avec leur poupée que je leur en ferai cadeau tout de suite. » Cette façon de concevoir son rôle dans cette histoire n'était point dénuée chez M. Bessières d'un certain machiavélisme. Hélas, cela ne devait point lui porter bonheur. Et nous allons tout de suite voir comment. Ce jour-là, il y avait à l'Institut une grande séance à propos de la poupée. Son existence allait y être discutée, ou plutôt sa possibilité d'existence. Nous avons relaté plus haut les perturbations apportées par la poupée dans les domaines administratifs et judiciaires, Mais qu'était-elle en vérité à côté de la rumeur soulevée sur le terrain scientifique? Une double tempête venue de deux points opposés de l'horizon, l'une par le professeur Thuillier, l'autre par le doyen de l'école, le professeur Ditte, avait fini par se rencontrer dans une tornade effarante qui venait de pénétrer sous les voûtes de l'Institut et exerçait des ravages à faire sauter les toits. Ce fut une séance mémorable qui s'ouvrit par la communication extrêmement modérée dans sa forme et dans ses tendances de Monsieur le Président Tirardel. Certains rentrèrent chez eux sans faux col, c'est tout dire. Cependant, Monsieur Tirardel n'avait rien fait pour exciter les esprits. Messieurs, il nous appartient de calmer l'opinion publique déchaînée par cette nouvelle invraisemblable qu'un de nos sujets les plus notables de l'école, M. Jacques Cotentin, que l'on n'a pas revu depuis, aurait inventé une mécanique dans laquelle il aurait mis le cerveau d'un assassin. Et cette mécanique, lâchée sur le monde, continuerait d'assassiner. Ce qui n'est naturellement rassurant pour personne. Eh bien, nous sommes des savants, hein, à nous de dire si oui ou non un tel phénomène est possible. Quelle que soit l'invraisemblance d'une pareille proposition, je vous supplie, mes chers confrères, de discuter la chose sérieusement. Après, nous voterons. Il n'y avait là rien de bien méchant pour personne. Cependant, un admirateur forcené du professeur Thuillier, bien qu'il eût promis de conserver tout son sang-froid, a ne pu supporter le ton de légère ironie sur lequel ces choses furent dites et il s'écria: Vous êtes une vieille baderne! Consternation générale, puis tapage effrayant, tous debout. Mais où sommes-nous? Demanda tout pâle le président Tirardel. En France, lui réplique-t-on. Et ce sont les soi-disant savants comme vous qui font fuir en Amérique les Carrel et autres génies. Tonnerre d'applaudissements, injures. De génies, dites des dentistes. Il y a des dentistes de génie. Il s'assied satisfait au milieu d'une nouvelle tempête. Monsieur le doyen dit se lève. Messieurs, n'oublions pas que le monde nous regarde. Je vous rappelle à la question, supplie le président Tirardel en s'affalant dans son auguste barbe qui le fait ressembler si avantageusement au chancelier d'Aguesseau. Mais aujourd'hui, on n'a plus le respect de rien. La science elle-même, par ses révélations inattendues, se moque des savants, pense-t-il. L'anarchie partout. Ce qui était vrai au temps de sa jeunesse devient une ânerie au temps de sa barbe blanche. Et Monsieur le Président Tirardel murmure héroïquement: Mais trop vécu. Cependant, il fait fermer une fenêtre d'où lui vient un courant d'air. Il admire d'une paupière lourde Monsieur le doyen Ditte qui déchiquette d'une dent rageuse la communication à la presse du professeur Thuillier. Les interruptions des jeunes, les jeunes de l'Institut, ne l'émeuvent pas. Si Monsieur le professeur Tirardel doute désormais de tout, depuis qu'on l'a traité de vieille baderne, Monsieur le doyen lui est resté ferme dans sa foi. Il connaît les limites du progrès. Il les a apprises dans les livres qui ont formé l'esprit de sa génération, livres pleins d'apophtegmes sauveurs grâce auxquels on n'a pas à craindre le libre jeu de l'imagination. L'hypothèse y a ses règles qu'elle ne saurait franchir sans tomber dans la farce. Monsieur Dit n'a pas prononcé. Monsieur le professeur Thuillier est un farceur, mais tout le monde a compris. Il s'assied, satisfait, au milieu d'une nouvelle tempête. Monsieur Thuillier, qui ne fait pas partie de l'Institut, ne peut pas lui répondre, mais Monsieur le professeur Haase, qui fait partie de la phalange, ainsi appelle-t-on les amis du professeur Tuilier, se lève et parvient à dominer le tumulte. J'admire, fait-il, la sincérité méprisante avec laquelle M. le doyen nous parle du système nerveux que M. Jacques Cotentin aurait donné à sa poupée et qui, par le truchement du sérum Rockefeller, de l'électricité et du radium, la ferait agir. Prenons la chose d'un peu haut, puisque, paraît-il, nous sommes des savants, c'est-à-dire des êtres capables d'aborder des questions d'ordre général. Constatons d'abord humblement qu'en ce qui concerne les phénomènes nerveux, nous sommes très peu avancés. Lorsqu'il y a un quart de siècle, le docteur Ramon y Jarral publia ses observations histologiques sur les fibres nerveuses, notre président d'honneur, le docteur Branly, qui n'est pas seulement le savant illustre de la découverte de la télégraphie sans fil, mais qui est encore un médecin des maladies nerveuses d'une rare sagacité, signala dans une note parue le 27 décembre 1897 dans les comptes rendus de notre académie, les similitudes de propagation de l'onde nerveuse et de l'onde électrique et les analogies de structure et de fonctionnement que présentent les conducteurs discontinus tels que le tube à limaille avec les neurones et les terminaisons des fibres nerveuses. De tels rapprochements donnent à réfléchir.
Mais il ne s'agit pas de tout cela,
s'écria un petit vieillard épileptique dont tout le monde avait oublié le nom, mais qui avait, paraît-il, été l'une des plus grandes petites gloires de l'autre siècle.
Vous prenez la question de trop haut, ou plutôt vous êtes tout à fait en dehors de la question. Prenons-la plus bas, mon cher confrère, beaucoup plus bas. Laissez donc les neurones tranquilles, et parlez-nous du siphon de Gabriel.
Ah, ah, quel succès du petit vieillard épileptique! Le siphon de Gabriel. Un autre cria, « Moi, je veux des nouvelles de son barbotage !» Ce fut la fin. Un fou rire étouffa les protestations indignées des jeunes et de la phalange. Sur la proposition de M. le doyen dite, on déclara la discussion close et l'on passa aux voix. Monsieur le Président Tirardel se leva et prononça ces paroles historiques qui rendaient compte du vote. « À la majorité, non, la poupée sanglante ne peut pas exister. » Il n'avait même pas eu la patience d'attendre que l'on finît de dénombrer les voix. Cette majorité était tellement écrasante. Enfin, la raison humaine, telle que l'envisageaient certains savants de la fin du dernier siècle, avait vécu. À ce moment, comme on congratulait le président Tirardel, un huissier vint lui apporter un mot de la présidence du Conseil. M. Tirardel reconnut l'écriture du ministre et s'empressa de décacheter. Il poussa aussitôt un cri lamentable, quelque chose comme le gémissement d'une bête qui se sent tout à coup frappée de mort. Toutefois, il voulut finir en beauté. Il eut encore la force de se soulever. Le noble vieillard se dressa au-dessus de la foule de ses confrères comme un spectre. « Messieurs, je viens de recevoir la nouvelle que la Sûreté Générale a enfin arrêté la poupée sanglante. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que le ministre avait ajouté de sa propre main « Attention, pas de bêtises !» Elle était faite, la bêtise. Chapitre 21. Un coup de maître de M. Lebouc et ce qui s'ensuivit. L'événement était réel. La poupée avait été arrêtée par M. Lebouc. Retournons dans le cabinet de M. Bessières, chef de la Sûreté Générale, que nous trouvons accablé à la suite d'une scène des plus désagréables pour son amour-propre et des plus funestes pour son ambition, scène qu'il vient d'avoir avec son ministre avant la réunion du conseil de cabinet qui se tient en ce moment en bas dans le salon de la place Beauvau. Tout à coup, sa porte s'ouvre et l'huissier n'a pas le temps de prononcer une parole. Cette porte lui est refermée sur le nez. Monsieur Lebouc est en face de Monsieur Bessières. Ses yeux brillent, son teint s'enflamme, ses cheveux sont en désordre, et sur tout cela, il y a un air de victoire qui doit être des plus inquiétants pour ceux qui connaissent les victoires de Monsieur Lebouc, qui sont généralement des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire suivies de lendemains désastreux. Aussi, malgré toute cette apparence glorieuse, ce n'est pas seulement avec inquiétude que M. Bessières accueille M. Lebouc, mais encore avec colère. « Ah bon, voilà, vous, Lebouc, je ne sais pas ce que vous allez m'annoncer. »«
Quelque chose d'étonnant, monsieur le directeur. »«
Mais avant tout, je tiens à ce que vous me disiez, si oui ou non, vous êtes pour quelque chose dans les articles de presse qui visent les soi-disant scandales de Corbière sur lesquels je vous avais ordonné l'autre jour de garder le plus grand silence. » Ces scandales de Corbière, c'est moi qui les ai dénoncés, prononça à haute et intelligible voix M. Lebouc. Et ces articles de presse, c'est moi qui les ai écrits. C'est vous qui signez XXX?
Moi-même, monsieur le directeur.
Nom de Dieu! Ah, patron, moi j'en ai assez d'être monsieur Lebouc émissaire, de travailler toujours pour les autres, de n'en tirer ni gloire ni profit, mais la plus répugnante ingratitude. Toujours sacrifié et toujours prêt au sacrifice. Telle a été la devise que l'on m'a imposée depuis des années. Eh bien, je la déchire. Je ne demande pas mieux que de vous servir, moi. Servir la police de son pays, sans laquelle il n'est pas de justice possible, c'est une noble tâche. Mais je ne veux pas en être écrasé. J'avais mal débuté dans la vie. Un jour est venu où je me suis rangé à vos côtés parce que vous êtes les plus forts. Hélas, vous me l'avez bien prouvé. Cette force, elle n'a pas cessé de s'exercer contre moi. Alors je me suis dit, il y a quelque chose de plus fort que la police, c'est la presse. Et je me suis fait journaliste. Lebouc, vous êtes un âne. Je vous aimais encore mieux quand vous étiez Lebouc. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, Lebouc. Vous avez si bien travaillé que demain, je ne serai plus là pour vous défendre. Mais j'y serai, moi, monsieur. J'y serai avec la grande presse. Monsieur Bessières, nous sommes intangibles. Je vous apporte la victoire. Je vous apporte la poupée sanglante. Monsieur le directeur se leva comme galvanisé. Ah, Lebouc, si vous aviez fait ça, eh bien, c'est alors que nous serions vraiment forts.
Soyez donc satisfait, patron, elle est là.
Où? Maintenue par une demi-douzaine d'agents, au fond d'une auto, rue des Saussets. Allez la chercher, je vous la fais apporter ici.
Monsieur Lebouc s'absenta quelques secondes pour donner des ordres. Monsieur Bessières était dans une agitation fébrile. La poupée, c'était le salut. Avec la poupée, il tenait tout le monde. Ceux qui en voulaient et ceux qui n'en voulaient pas. Il devenait le maître de la situation. Ce sacré Lebouc, tout de même, on avait fini par en faire quelque chose. Lebouc rentra.
« On vous la monte. Avez-vous téléphoné au ministre ?»«
Non, pas encore, vous comprenez que je veux la voir d'abord. Mais comment l'avez-vous arrêtée ? On dit que c'est une mécanique redoutable. »
Terrible, monsieur le directeur, mais il n'y a rien de terrible pour un âne, surtout quand cet âne se double d'un bouc
fit le bouc qui prenait sa revanche. Enfin, vous ne l'avez pas arrêté à vous tout seul.
À moi tout seul, monsieur le directeur, et de la façon la plus simple du monde.
Je rôdais autour des murs des deux colombes quand j'ai vu un singulier individu s'en approcher. Il prenait toutes sortes de précautions. Il y avait une façon tout à fait particulière d'allonger le pas, sur un certain rythme, un pas dansant, qui excita au plus haut point ma curiosité. Soudain, il tourna la tête. Oh, je vis bien son profil, son masque tel qu'on l'a décrit, où il n'y a de vraiment vivant que les yeux. Enfin, il faut vous dire que depuis des jours et des jours, je ne pense plus qu'à la poupée. Un secret instinct me cria « C'est elle ! Elle vient rejoindre ses complices aux deux colombes !» Je n'ignorais rien de ce qu'on avait raconté d'elle, de sa force extraordinaire, de ses poings mécaniques qui vous frappaient comme des catapultes. Je me dis « Il faut la surprendre, l'étourdir ou la démolir, la mettre d'un coup en état d'infériorité absolue, et elle va se briser comme une paille !» Alors, je me suis souvenu qu'avant de m'engager dans l'honorable administration policière, j'avais été quelque peu mauvais garçon et bien connu, ma foi, pour mes coups de tête. Quand je parle de mes coups de tête, monsieur le directeur, je ne parle pas au figuré, mais bien au physique. C'est ce que nous appelions alors, dans la partie, le coup de bélier ou encore le coup de Garibaldi. Je me suis demandé même à un moment si je n'allais pas lui faire bouffer de la tête de cochon. C'est comme ça que nous appelions le coup de tête dans la figure. Mais je me suis arrêté au coup de tête dans le ventre et je m'en suis bien trouvé. Oh, pour ça, je l'ai bien dogué. J'avais pris mon élan. Je suis arrivé sur lui comme la foudre, ma tête apportée en plein dans le centre de sa mécanique, et il a été comme soulevé de terre. Il est retombé sur le dos, les quatre pattes en l'air. Et alors, ce qui s'est passé, voyez-vous, monsieur le directeur, ça a été plutôt rigolo. Ce particulier-là, quand il est sur le dos, il est comme un crabe, il ne peut pas se relever. Il s'agite, roule de droite, de gauche, tourne sur lui-même, décoche dans le vide des coups de poing, des coups de pied, à défoncer les murs. Mais il n'y a qu'à se garer et à lui recoller la tête par terre, quand il fait mine de se soulever. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris tout mon temps, et du bon temps, et je l'ai bien fait enrager, vous savez, comme un gosse qui s'amuse avec un crabe sur la plage, je vous dis. J'avais envoyé un moutard qui passait me chercher les cordes à l'arbre vert. Il est revenu avec une auto qui venait d'arriver, et le père Philippe, le bourrelier. Les gens de l'auto, le père Philippe et moi, nous avons réussi à passer à la poupée les cordes sous le bras et nous l'avons traînée comme ça jusque dans l'auto, toujours sur le dos. Quand les gens de là-bas ont vu que cette espèce de mécanique qui ne cessait de gigoter était bien la poupée sanglante, ils ont voulu lui casser la figure. Mais moi j'ai dit « Oh, ne me l'abîmez pas, elle m'appartient !» Et voilà comment nous vous l'avons apporté, monsieur le directeur. Maintenant, elle appartient à la justice et aux savants. Et ma foi, on ne viendra plus nous dire qu'elle n'existe pas. Tenez, je les entends qui la traînent. La voilà. Monsieur Bessières ouvrit lui-même la porte et les agents traînèrent jusqu'au milieu de son cabinet une grande poupée terriblement ficelée, ligotée, enchaînée, liée de menottes, étendue sur le dos, et dont les yeux grands ouverts semblaient jeter feu et flamme. Tous la considéraient maintenant en silence, penchés sur le phénomène et n'osant y toucher. Après quelques secondes de ce spectacle exceptionnel, qui lui faisait bondir le cœur, M. Bessières se précipita à son bureau, décrocha l'appareil téléphonique et demanda la communication avec le chef du cabinet particulier du ministre. Allô, allô, c'est vous, monsieur Tristan? Je désirais dire un mot à monsieur le président. Vous dites, ces messieurs sont au conseil. Écoutez, voici de quoi il s'agit. J'ai arrêté la poupée. Ah, parfaitement, la poupée. Oui, oui, la poupée sanglante. On me l'a rapportée dans mon cabinet. Vous dites, ah, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Oui, allez trouver monsieur le premier. J'attends à l'appareil. Il attendit 3 minutes. La porte s'ouvrit et le chef du cabinet particulier se précipita. Le ministre arrive. Il veut voir lui-même. Oh, très curieux. Quelle drôle de bête. Mais vous ne pouvez pas la laisser comme ça par terre. Monsieur le premier va l'interroger. Redressez-la un peu. Très dangereux, fit entendre la voix rogue de monsieur Lebouc, qui n'était point content du tout que son nom n'eût pas encore été prononcé. Quoi, très dangereux, voilà un bonhomme d'automate qui est ficelé comme un saucisson d'Arles. Nous sommes 10 ici, et vous avez peur ? Ce n'est pas que j'ai peur, déclara monsieur Lebouc, dans un grognement des plus déplaisants. Mais permettez-moi de vous dire... « Assez, taisez-vous, le bouc !» ordonna M. Bessières. « Monsieur le chef de cabinet a raison, le prisonnier ne peut comparaître devant M. le premier dans cette position ridicule. Déliez-lui au moins les jambes et redressez-la. »« Oh, la forme !» ricana lugubrement cet entêté de le bouc. « La forme !» Obéissant aux ordres de leur chef, les agents l'avaient déjà libéré les pieds de la poupée et l'avaient redressée. Mais elle n'eut pas plutôt retrouvé son équilibre, ses semelles n'eurent pas plutôt touché le parquet, que comme le géant hanté, lequel retrouvait toutes ses forces chaque fois que, glissant des bras d'Hercule, il touchait la terre, la poupée, dépliant une force effrayante, faisait sauter les liens qui la retenaient encore, bondissait, traversait littéralement la porte qui ne résistait pas plus qu'une feuille de carton, passait sur le corps de monsieur le ministre, qui dans le moment même accourait pour voir lui aussi le phénomène, secouait la grappe d'agents qui désespérément s'étaient accrochés à elle, filait comme une flèche par le couloir de gauche, celui de droite qui conduisait à la rue des Saussets étant encombré et défendu par les huissiers, se jetait dans la cage d'un étroit escalier comme on se jette dans un gouffre, rebondissait, retrouvait d'autres couloirs, traversait comme une trombe le cabinet désert de monsieur le chef de cabinet, surgissait dans le grand cabinet de monsieur le premier, où tous les ministres fébriles, à qui leur chef venait d'apprendre le grand événement, attendaient des nouvelles de la poupée. Eh bien, elle leur en donnait elle-même des nouvelles. En les bousculant horriblement et en les frappant d'épouvante, puis elle traversait encore la salle où attendait la presse, dont quelques représentants conservèrent longtemps le souvenir de cet ouragan automatique, franchissait en 2 bonds le vestibule, sautait dans la cour et s'élançait sur le siège de l'auto particulière du président du conseil qui se donnait prêt à partir. Avant même qu'on eût pensé à s'opposer à cette audacieuse manœuvre, l'auto franchissait la grille de la cour, saluée par le concierge galonné qui refermait cette grille derrière elle. L'auto enfila à toute allure la rue Saint-Honoré, après avoir passé sans s'y arrêter, comme il lui arrivait souvent, devant l'Élysée. Mais à ce moment, derrière elle, de la place Beauvau et de la rue des Saussets, des bicyclettes, des motocyclettes et tous les taxis qu'en quelques secondes les agents avaient pu réquisitionner parmi ceux qui passaient ou stationnaient dans les environs, se ruèrent à sa poursuite. C'est dans ce moment-là aussi que 3 messieurs, fort solennels, descendirent d'une auto devant la grille du ministère et, s'adressant au concierge qui ne voulait pas les laisser passer, déclarait par la bouche de M. Dite, doyen de l'école de médecine, Monsieur, nous désirerions voir le ministre. Oh, monsieur, c'est absolument impossible pour le moment. Monsieur le ministre ne veut recevoir personne. Du reste, ces messieurs sont rentrés en conseil, vient de me dire l'huissier qui m'apportait les ordres. Monsieur, nous sommes délégués par l'Académie des sciences pour venir examiner la poupée sanglante qui, paraît-il, vient d'être arrêtée. Cette nouvelle qui nous a été transmise par les soins de Monsieur le Premier ministre lui-même doit être exacte si nous en jugeons d'après l'émoi de tout le quartier. Monsieur, cette nouvelle était exacte, il n'y a encore qu'un instant, mais elle ne l'est plus. La poupée sanglante vient de sortir d'ici. C'est moi-même, hélas, qui lui ai ouvert la grille. La poupée sanglante est sortie d'ici? Oui, monsieur, dans l'auto du ministre. Vous ne pouvez pas le prévoir, n'est-ce pas, monsieur? Messieurs, s'écria monsieur Dite, je crois qu'on se moque de nous. Retournons à l'Institut. Pendant que ces martyrs de la science regagnaient leur auguste pénate à pied, car ils ne retrouvèrent plus leur taxi, la poursuite continuait derrière Gabriel. Au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Boissy-d'Anglas, il y eut un embouteillage peu ordinaire dont la poupée profita en passant carrément sur le trottoir au milieu du hurlement des piétons qui s'écrasaient contre les murs. Puis elle remonta vers la Madeleine, qu'elle contourna, et arriva à une allure de bolide dans les autobus Madeleine-Bastille qui stationnaient là en attendant leur tour de départ à la tête de ligne. L'un d'eux fut secoué solidement sur sa base et fut endommagé. L'auto du ministre sortit de cette collision à peu près en miettes. Quant à la poupée, elle parut être projetée vers un autre autobus que son chauffeur commençait à mettre en marche. La douzaine de voyageurs qui s'y trouvaient déjà virent avec épouvante cette espèce de mécanique humaine qu'aucun choc ne semblait entamer, bondir à la place du receveur qui fut rejeté comme une loque sur la chaussée. Déjà, la ruée des poursuivants accourait en criant « La poupée ! La poupée !» Ce fut un sauve-qui-peut général. Au risque de se rompre les membres, les voyageurs sautèrent hors du véhicule qui, heureusement, n'était pas encore tout à fait lancé. Cependant, sur la plateforme arrière, un vieux monsieur à cheveux blancs, qui n'avait pu se résoudre à descendre en marche, pleurait comme un enfant en agitant son parapluie comme un drapeau noir. Le receveur n'avait pas eu le temps de monter, de telle sorte que le vieux monsieur blanc se trouvait seul avec la poupée, vers laquelle il se retournait de temps en temps, pour se remettre à crier, pleurer de plus belle, la bouche tordue, comme un moutard que l'on arrache à la mamelle. Ayant remonté le boulevard de la Madeleine et une partie de celui des Capucines, accompagné de clameurs de tout un peuple qui se garait sur les trottoirs, tandis que l'autobus renversait tout sur la chaussée, Gabriel tourna brusquement derrière l'opéra, prit la rue Lafayette qu'il fit remonter à son terrible char comme une trombe. Au coin de la rue du Faubourg Montmartre, il y eut une telle salade de véhicules que l'autobus se trouva quelques secondes comme en suspens. Allait-il s'effondrer? Allait-il retrouver son équilibre? Il retrouva son équilibre, mais un agent à motocyclette arriva brusquement à hauteur de la poupée et, la visant bien en face, lui déchargea son Browning à travers le corps. Il ne lui produisit pas plus d'effet, apparemment, que s'il l'avait rafraîchi avec un vaporisateur. Cependant, toutes les balles ne furent pas perdues. L'une d'elles, après avoir traversé le corps de Gabriel, traversé l'autobus dans toute sa longueur, finit par traverser le désespéré vieillard à barbe blanche qui bascula du coup et vint s'échouer sur la chaussée. et c'est ce qui le sauva. Sans quoi, il n'eût pas échappé à la catastrophe finale qui était proche, tandis qu'il pouvait encore espérer dans son malheur que les soins d'une épouse chérie et d'une fille dévouée l'arracheraient au trépas. La redoutable voiture, cet obus à roues, comme on l'a dit depuis, lâcha la rue Lafayette à la hauteur de la gare de l'Est pour redescendre le boulevard Magenta, avaler la place de la République, bondir jusqu'à la Bastille, enfiler le boulevard Diderot. C'est là que la catastrophe que nous annoncions tout à l'heure se produisit. On était en train de construire au coin de ce boulevard un de ces immeubles magnifiques que l'architecture d'après-guerre, qui est fort pressée, offre d'un bout à l'autre du territoire à notre admiration. Ces sortes de maisons s'élèvent avec une rapidité de décor, sont épaisses d'une largeur de briques, consolidées d'un peu de ciment, moins armées qu'on en l'affirme, et aussi hautes que les autres, 6 ou 7 étages, aussi belles car elles comportent de charmants ornements en plâtre que l'on ne saurait demander à la pierre, à cause de la main-d'œuvre. Seulement, il faut bien le dire, elles sont moins solides. Un autobus, comme celui que menait Gabriel, lancé de main de maître dans ce chef-d'œuvre, après une magnifique embardée où il semblait prendre un dernier élan, ça devait donner du vilain. Cela d'abord donna un coup de tonnerre. Puis il y eut un nuage épais qui se répandit sur tout le quartier. Quand ce nuage se dissipa, il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus qu'un entassement de matériaux informes, un prodigieux gâteau en plâtre fouetté, au milieu duquel on chercha la poupée, mais on ne l'y trouva pas.